Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie avec petites et grandes histoires de la basse marche.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la basse marche. Lors de notre première émission en septembre 2015, nous avons traité des colporteurs, des marchands et des épiciers ambulants. Aujourd'hui, je veux vous amener chez l'épicier autrefois. Il s'agit bien sûr des épiciers des bourgs et des petites villes. Pour les textes, j'ai utilisé les ouvrages de Jean Leur, Un parfum de récré, Paul Lavergne, L'enfant sous les charmes, Jules Marouzeau, Une enfance, Charles Sylvestre, Le voyage rustique, Louis Peignot, Bergère, Éternelle Bergère et Bramefont sur Couze, ainsi que des témoignages locaux.
La basse marche a plein d'histoires à raconter. Écoutez-les avec petites et grandes histoires de la basse marche.
Pendant longtemps, dans nos campagnes de basse marche, les épiciers n'existaient pas. En effet, on produisait tout sur place, à la ferme. Même au début du XXe siècle, les vieilles contestent l'épicier. Louis Peignot écrit ceci dans Bergère, Éternelle Bergère. Le passage de l'épicier était pour la grand-mère l'occasion de gémir devant tous ces paquets qu'il laissait sur la table. De son temps, la soupe, les châtaignes et le salé suffisaient à tout. Françoise, elle, ne s'en contentait pas. Il lui fallait pour la frérie du vermicelle, du macaroni. Des noms bien difficiles à prononcer pour une bouche édentée de vieille femme, mais des soupes bien faciles à avaler. Une petite marmite de fonte était toujours pleine de café odorant que la grand-mère aimait bien, mais qu'elle aurait apprécié plus encore s'il n'avait pas fallu l'acheter. L'épicier tentateur avait même réussi à vendre à Françoise une belle boîte ornée de fleurs et pleine de biscuits à la cuillère. Au Moyen-Âge, même dans les villes, il n'existe pas de marchand de menus comestibles comme nous le comprenons aujourd'hui. Aussi, le nom d'épicier s'applique tantôt aux fabricants de bougies, tantôt aux apothicaires, vendeurs d'épices. En 1312, une ordonnance les classe parmi les fabricants de bougies, mais en 1336, le prévôt de Paris s'adresse aux apothicaires épiciers, leur rappelant qu'ils devaient soumettre aux maîtres de la médecine tous opiats ou autres drogues débités dans leurs officines. Peu à peu, on voit apparaître des épiciers tenant et vendant sauces, comme cannelines, sauce vert, sauce râpée, sauce chaude, sauce à compost, moustarde et autres sauces. On voit également apparaître des regrettiers ou des regrattiers. Ce sont des revendeurs de comestibles. Ils revendent au petit peuple les restes des riches tables de l'aristocratie et de la noblesse, les débris des repas non consommés. C'est ainsi qu'en basse marche, on appelle regrattières les épiciers de seconde qualité. Et Germaine Bariteau nous indique que dans la région de Saint-Pardoux, c'est une rogratière de Limoges qui, pour carnaval, vient vendre les pruneaux qui servent à la fabrication des fameuses tartes. Aussi, dès le XVIe siècle, les apothicaires vont demander leur séparation d'avec les épiciers. Les épiciers simples deviennent donc simplement des marchands de bougies, de sauces et d'huiles. Curieusement, ils obtiendront plus tard le droit de vendre aussi du fer, des clous, du charbon, du vinaigre, de la mercerie, de la charcuterie, enfin du moins du jambon de Bayonne ou de Mayence. Et ils continuent de vendre des drogues, thériac, mithridate, préparation de kermesse, mais à la condition de se fournir auprès des apothicaires patentés.
Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région,
je ne résiste pas au plaisir de vous parler de ces épiciers sauciers du Moyen-Âge que l'on ne rencontrera bien sûr que dans les villes. Au Moyen-Âge, les viandes sont souvent de mauvaise qualité, aussi on a coutume de faire bouillir les viandes et volailles. La mode du beefsteak et des viandes grillées est d'ailleurs une mode assez récente. On les fait bouillir avant de les embrocher pour les rôtir sur les braises, d'où le nom de rôt que l'on donne aux plats de viande. Pour agrémenter ces viandes, on fait grand emploi d'épices et d'aromates qui sont des denrées rares et précieuses. On utilise par exemple le gingembre, la cannelle, le coriandre, la muscade et le poivre. On en fait des marinades avec du vin, des herbes aromatiques, du miel ou des espèces de sauces. Le verjus est un mélange de jus de raisin avec de l'oseille et des fines herbes. La poivrade est une addition de vin et de poivre. La robert est un mélange de vin blanc, de vinaigre et de moutarde. La camenine est une addition de gingembre, de girofle, de poivre, de cannelle et de vinaigre. Par la suite, au XVIIe siècle, on fera venir des Antilles, de la vanille, du café, du chocolat et surtout du sucre, dont on saupoudre les viandes et les sauces. On voit que la mode de sucrer nos mets n'est pas nouvelle. Si les apothicaires et les épiciers utilisent au départ les mêmes produits, on voit donc comment va se faire la spécialisation. Les apothicaires vont les utiliser pour soigner, pour guérir, et les épiciers pour construire la gastronomie. Ce texte de Louis Peignot, extrait de Bramefont-sur-Couze, nous explique maintenant les fonctions d'un épicier au XVIIIe siècle. Il s'agit d'Antoine Briquet, il est épicier à Roussac en 1735. Monsieur Antoine Briquet vint demeurer à Roussac où il continua de remplir les multiples et importantes fonctions qui lui avaient été dévolues en 1735. Il était, en outre, commerçant, marchand de vin, de tabac, cabaretier, régisseur, collecteur de taille et décimateur. Par ses comptes, si bien tenus, nous apprenons qu'un bœuf gras est vendu 100 livres, 20 moutons pour 54 livres, 2 poulets pour 7 sous, la livre de beurre valait aussi 7 sous, la pinte, c'est-à-dire 2 chopines de vin vieux du Périgord, 6 sous, la chopine de vinaigre, 3 sous, mais il n'y a aucune trace de pommes de terre, de sucre ou de café. Par contre, l'once, c'est environ 30 grammes de tabac râpé, se vendait 5 sous, et la tabatière entière, 15 sous. Chez M. Briquet, c'est le commerce du vin qui fonctionne le mieux. Il l'achète chez un marchand gros du Buis, M. Ruot, qui s'approvisionne dans le Périgord. Ou chez Chauchef, dit Lemoine, qui achète son vin dans la région d'Angoulême. Alors certes, ce sont les aristocrates qui lui commandent du vin. Les paysans n'en consomment qu'à la boutique, au retour des foires de Magnac, de Rancon ou de Comprignac. Nous avons vu qu'il vendait aussi du tabac qui était fort cher depuis que le roi, en 1758, l'avait frappé d'une taxe impopulaire. Mais il va ajouter d'autres produits. Il vend du seigle, du mil, du blé noir, du pain, du fromage, de la chandelle, du vinaigre et même de la morue séchée et salée.
Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région.
Avec M. Briquet, l'épicier de Roussac au XVIIIe siècle, nous sommes presque entrés dans le commerce de l'épicerie moderne. Sautons 2 siècles, avec Paul Lavergne dans L'Enfant sous les charmes, voici Bavolette, l'épicière de Mazerolles. J'ai des sardines à l'huile, du beurre, du fromage, des massepains, du sucre, du chocolat. Que vais-je vous vendre ? Elle est grasse et réjouie. Son double menton duveté de barbe dessine un collier au bas de son visage. Elle parle avec une voix d'ogresse qui a mangé à son déjeuner au moins 3 petits enfants. Allons, Miette, que vais-je vous vendre? Est-ce du savon? Du fil? De la laine? Est-ce de la bougie, de l'huile, du vinaigre? Il faut de tout cela dans un ménage, Miette. Les brides de son bonnet empesé voltigent derrière sa tête. D'une main molle, emplie de fossettes à la naissance des doigts, elle caresse la monnaie d'argent qui teinte dans la poche de son tablier à petits carreaux. Ben, décidez-vous, voyons, Miette. J'ai des bonbons, j'ai des madeleines, du sucre d'orge, des caramels. Un peu plus tard, la cliente, Miette, lance « Combien payez-vous les œufs ?» En effet, nous sommes entre les deux guerres et à la campagne, l'essentiel de l'épicerie ne se paie pas en argent, mais en œufs. « Combien payez-vous les œufs ?» demande donc la grand-mère. « Ah, les yeux de la tête ! Ils valent 15 sous. J'en ai 5 douzaines à vendre. »« Eh ben va pour 3,75 » dit Bavolette. « Je ne vends pas seulement, j'achète. Hein. C'est bien pour vous être agréable. » Miette sait que l'épicière revendra les œufs au moins 20 sous aux dames de Mazerolles. « Et les pots de lapin » dit-elle. « Hors de prix ! Hors de prix ! J'en prends 3 pour 2 sous. » Jules Marouzeau, l'auteur de Une enfance, connaît bien l'épicerie puisque sa mère en tient une à Fleurat dans la Creuse.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Ma mère avait ce qu'on appelle au village un commerce, c'est-à-dire qu'elle vendait épicerie, tissu, poterie, mercerie, quincaillerie, papeterie, enfin tout un bon marché en miniature. Tout cela logeait dans la boutique où les clients entraient de la rue par une porte qui mettait en branle une sonnette. Cette sonnette était le tourment de ma pauvre mère. À peine se mettait-elle à la cuisine, à coudre, à faire les lits. « Maman, à la boutique !» Car il y avait pas mal de choses que nous, les enfants, ne savions pas vendre. Pour moi, je n'allais guère plus loin que le sel qu'on pesait à la balance romaine dans un mouchoir noué aux quatre coins. Le poivre qu'on glissait dans un cornet de papier jaune. Le sucre qui nous était livré en haut cône miroitant et qu'on cassait au maillet. Le savon qui arrivait en barre et qu'on coupait au fil de fer. Au reste, d'ordinaire, les paysannes n'avaient pas confiance en nous, les enfants. « Va donc quérir la lorie !» C'était le petit nom de ma mère, nous disait-elle. Et Jules Marouzeau de nous préciser, la boutique s'alimentait en marchandises par les tournées des voyageurs. Le voyageur de commerce venait de lieux qui n'avaient pour moi qu'une existence théorique, Limoges, Châtellerault. Il arrivait parmi les tintements de gros lots dans sa voiture à deux chevaux qu'il reculait contre la porte de la boutique pour en sortir les casiers d'échantillons.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Alors pour sa part, Charles Sylvestre s'est intéressé à l'épicerie de Peyrat-Bellac et à son épicier Jean Sissac. La boutique de Jean Sissac est ouverte sur la place du village. Les vaches, en allant au pacage, saluent les bocaux de berlingots rouges, honneur de la devanture. Ici, le rouge ne rappelle pas la couleur du sang versé. Callot, le fier taureau de Rioux, le sacristain, regarde d'un œil aussi gros qu'une prune reine Claude la carotte qui annonce que Jean Sissac vend du tabac à fumer et à priser. L'enseigne est peinte d'un ripolin écarlate et dessus resplendissent deux pipes croisées, jaunes comme le jaune d'un œuf. Devant l'épicerie vont et viennent les troupeaux de toutes sortes, dindons coléreux, moutons en grappe qui roulent pressés l'un sur l'autre au beau milieu de la route, chèvres dansantes qui cheminent volontiers au bord du fossé. Ah, m'est avis que si tous les animaux qui trottent devant ma porte étaient des clients, je serais fameusement riche. À 30 ans, Jean Sissac est un garçon jovial. Il n'est pas pauvre. Il tient de ses parents ce commerce. Il est dans sa boutique comme dans un nid. Il hoche du bec et, méditant de vendre une boîte de sardines à la tomate, il sait écouter avec patience les histoires que lui content par le menu de vieilles clientes radoteuses. Une d'elles, la belle-mère de Farine, a la joie maligne de lui faire démolir l'édifice de conserve qu'il élève sur ses étagères. Sissac aime son métier. Le riz ruisselle dans ses mains où il semble qu'il prenne de la qualité. Il a une façon de casser un bâton de macaroni qui décide l'acheteur incertain. Il connaît l'esprit paysan, ses tours et ses retours. L'hiver, quand on vient acheter de l'huile, il porte la bonbonne devant le feu. Tandis qu'elle se défige, il vante des paquets de lessive dont l'institutrice a fait provision. Son linge est blanc comme de la vraie neige. Ce matin, Jean-Tou demande une chandelle pour éclairer sa lanterne. « Elles sont bien courtes, tes chandelles, » dit-il. « On peut pas aller bien loin avec. Et moi qui ai du chemin à faire ce soir ?» Il y a bien longtemps que tu as tout brûlé, vieux lapin. » Jean Sissac s'est adossé au comptoir. Content de son sort, il regarde sa boutique. Un peu de lumière fait reluire ses boîtes de conserve dont il a formé une pyramide en minuscule. Un rayon de soleil touche le baril à sardines, qui resplendit comme une monstrueuse fleur métallique dont chaque pétale est un poisson argenté. C'est la seule marguerite que Jean ait jamais effeuillée. Dans les villages, dans les petits bourgs et même dans les petites villes de basse marche, les épiceries sont souvent multicommerces. Elles sont souvent épiceries modernes, épiceries centrales, épiceries générales, mais on trouve des épiceries merceries, épiceries buvettes, épiceries coiffures, épiceries tabac, journaux, épiceries crèmeries, épiceries quincailleries, épiceries restaurants, épiceries cordonneries, épiceries cabaret, téléphone, etc., etc. Voici une série d'informations à partir d'un témoignage concernant l'épicerie d'une toute petite ville avant la Seconde Guerre mondiale. À cette époque, 1930, il n'y avait ni bouteilles en plastique, ni briques. Le laitier apportait, tôt le matin, des bidons métalliques de 25 litres. Les uns contenaient le lait entier, dit lait chaud, d'autres le lait écrémé, dit lait froid. C'est l'épicière qui le versait dans le récipient de la cliente. On ne pouvait pas conserver le lait puisqu'il n'y avait pas de ni frigo ni congélateur. La fraîcheur de la cave n'était pas suffisante. D'où l'appel à la clientèle par un carré de papier blanc accroché à la porte de la boutique qui signalait qu'il y avait du lait à l'épicerie. Sur le comptoir trônaient des instruments de mesure, des balances avec des poids marqués en cuivre de 1 à 500 grammes ou en fonte de 1 à 5 kg. Il y avait aussi le crayon pour calculer la note de la cliente sur le carnet ou sur la boîte de camembert. Ce fut un événement quand arriva la balance automatique électrique à cadran. Une vraie merveille. Sur le comptoir étaient fixés aussi deux autres instruments, un moulin à poivre qui réduisait les grains en poudre et un énorme moulin à café. Tous les jours, en hiver, suivant l'expression consacrée, on tuait le cochon et nous vendions des grillons, des saucissons, des jambonnettes, du boudin. Nous vendions aussi des pommes de terre qui nous étaient livrées dans des sacs de 50 kilos. Sous l'épicerie était une cave à laquelle on accédait par une trappe aménagée dans le plancher et un escalier. Là se trouvaient deux ou trois tonneaux de vin. Comme le reste, le vin était vendu en vrac. Il n'y avait pas de litres cachetés ou bouchés. Tous les samedis, ma mère et ma grand-mère procédaient au lavage du plancher. Il n'y avait pas de carrelage. Le sol était fait de larges planches qu'elles frottaient à la brosse, agenouillées à même le sol. Thank you.
et grandes histoires de la basse marche.
Avec plusieurs extraits de Un parfum de récré, l'ouvrage de Jean Leur, nous allons voir que les choses n'avaient pas tellement évolué dans les années 1950 à Bellac. Jean Leur nous conduit d'abord à l'épicerie du Carrefour de l'Europe à Bellac. Nous habitons presque en face de l'épicerie du Rond-Point et nous sommes des clients assidus de l'Union de Limoges, coopérative ouvrière créée au début du siècle par les syndicats socialistes limougeaux. Il nous précise que les adhérents perçoivent la ristourne annuelle sous forme de remise de quelques pourcents, les achats étant comptabilisés à l'aide de timbres. Pierre, le gérant, aux grosses lunettes, compense sa myopie par le port d'une éclatante blouse blanche, laquelle, en contrastant avec le gris de celle des autres commerçants locaux, atteste sa modernité. Après avoir fait, comme chaque matin, le ménage de sa boutique, il installe sur un large tabouret un grand baquet en tôle galvanisée que Louis passe quotidiennement garnir du lait frais trait la veille. Lorsque les clients se présentent avec leurs bouteilles, Pierre plonge la mesure à longue queue recourbée dont le liquide blanc et usant d'un entonnoir remplit les récipients. Ce procédé susciterait de nos jours la réprobation de nos sourcilleux hygiénistes. Pour la distribution du vin, le gérant dispose d'une performante tireuse chromée reliée directement au tonneau de la cave. Jean Leur poursuit ensuite sa visite aux autres épiciers de Bellac. En remontant, je contourne la fourgonnette d'où M. Morillon, un solide gaillard employé de M. Maraveau, retire de longs et lourds parallélépipèdes de glace qu'il charge sur son épaule, protégé d'un sac de pommes de terre. Tous les jours, il fait le tour de la ville pour alimenter les frigos des débits de boissons. Et ce matin, il approvisionne le café de la mère Delpy qui, chaque vendredi, le jour du poisson, dispose sur le trottoir au ras de la chaussée son étal de poissons frais. Dans des caisses, garnies de glace pilée, s'allongent des merlus aux yeux vitreux, des maquereaux fuselés à la peau zébrée et de larges raies.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Un peu plus loin, Jean Leur se rend à l'épicerie de Madame Mérigou. Le gros lot teinte d'une note argentine, tandis que je pousse la porte de l'épicerie et qu'une bouffée d'odeur emplit mes narines. Subtil mélange de senteurs de fromage, de sardines salées, de pain d'épices, d'arômes de café et de parfums de savonnette. Avertie par le carillon, Madame Mérigou a quitté sa cuisine pour venir me servir. Elle tire au bidon d'huile d'arachide dont le liquide jaune et onctueux garnit silencieusement ma bouteille d'un demi-litre. L'épicière saisit un pochon de papier brun, souffle dedans pour l'ouvrir et avec une petite truelle sans manche, l'emplit de lentilles qu'elle puise dans un grand sac ouvert en toile de jute posé à même le sol. Elle place le paquet sur la balance et quelques graines ajoutées du bout de la truelle amènent l'aiguille à la coche souhaitée. Une demi-livre, bon poids. Il te faut autre chose ? Un morceau de morue pour 5 personnes. La commerçante scie au couteau, dans le sens de la longueur, une tranche du large poisson plat couvert de gros grains de sel qu'elle enveloppe, sans plus de façon, dans un épais papier d'emballage qui a déjà servi. Jean Leur nous précise que dans cette épicerie, on trouve aussi un grand nombre de gourmandises et il cite les roux-doudous multicolores, les boîtes de coco, les sucettes carmin, les longs rubans de réglisse, les sucres d'orge translucides, les bonbons élastiques aux formes animales, les gros chewing-gums roses dont on fait des bulles. Il nous indique que c'est dans une autre boutique, celle de Madame Prado, que l'on trouve les fameux caramels gagnants à 3 francs, des friandises consistantes qui se doublent d'une tombola.
Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région.
Voilà. Nous pourrions rester encore longtemps dans l'épicerie, sans doute pourrions-nous y découvrir d'autres trésors. Merci de nous avoir suivis pour cette nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la basse marche que nous avons consacrée aux épiceries autrefois en basse marche. Pour les textes, nous l'avons fait pour l'essentiel en compagnie de Louis Peignot, de Paul Lavergne, de Charles Sylvestre et de Jean Leur. Les accompagnements musicaux sont des morceaux joués au Limonaire, à l'orgue de Barbarie. Je vous donne rendez-vous le week-end prochain pour une nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la basse marche. À très bientôt donc, et très bonne semaine à vous tous.
Les petites histoires font les grandes histoires. Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région. La basse marche a plein d'histoires à raconter. Écoutez-les les samedis à 11h et dimanche à 13h avec Petites et Grandes Histoires de la basse marche.